RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On parle de cinéma ce matin, vous l'entendez, à l'occasion de l'ouverture de la 75e édition du Festival de Cannes. On va parler de toutes ces initiatives qui existent en France autour du cinéma. Vous êtes toujours les bienvenus d'ailleurs pour nous parler de cinéma. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller voir des films au cinéma? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est une expérience peut-être particulière pour vous? Connaissez-vous des associations qui organisent par exemple des rencontres ou des groupes de parole autour de projections? On vous attend à l'antenne avec vos témoignages au 04 72 38 20 23, vos messages par mail à direct@rcf.fr et toujours dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense donc j'agis sur RCF.
Avec nos chroniqueurs qui chaque jour viennent prendre la parole pour nous parler de certaines situations, c'est ce que fera Jules Girardet du CCFD Terre Solidaire. Il nous parlera du Nicaragua, pays d'Amérique centrale, en proie à un recul de la démocratie depuis plusieurs années. Alors que s'y passe-t-il? Rendez-vous à 10h20. On accueillera notre invité dans quelques minutes, Nicolas Legac. C'est le directeur d'une association à Lorient qui s'appelle J'ai vu un documentaire. Il est en train de présenter un festival et il va nous rejoindre par téléphone d'ici quelques minutes. Bonjour Jean-Baptiste Drouet.
Bonjour Melchior.
Merci d'être avec nous en direct sur RCF. Vous êtes le directeur d'une association lyonnaise qui s'appelle La Septième Voix, que vous avez créée il n'y a pas très longtemps. J'aimerais juste qu'on parle du Festival de Cannes quand même pour ouvrir l'émission. C'est un événement que vous avez l'habitude de suivre?
Alors oui, chaque année c'est un événement qui est un peu le rendez-vous de tous les cinéphiles et en tout cas des personnes qui s'intéressent au cinéma. Oui, c'est un rendez-vous qui est hyper important. Je crois que c'est un des seuls festivals au monde qui ouvre le cinéma mondial dans cet espace justement qui est Cannes, qui est aussi un espace de star system,
mais aussi
de paillettes, mais notamment un espace qui s'ouvre à un cinéma beaucoup plus original, qui n'est pas forcément extrêmement diffusé, donc ça laisse la place justement à des auteurs qui ne sont pas très connus de s'exprimer et briller le temps de ce festival. C'est ça aussi le cinéma.
Ouais, c'est ce qu'on disait dans la première partie de cette émission, ça fait aussi découvrir des films et des réalisateurs. Vous, le cinéma, c'est une passion dans votre vie?
C'est plus qu'une passion parce que c'est quelque chose qui me suit depuis mon adolescence, depuis mon enfance. Et j'ai grandi, j'ai évolué avec. J'ai grandi dans une famille qui est plutôt artiste dans le milieu de la musique. Mais le cinéma, ça a toujours été mon domaine et ça m'a permis justement depuis mon adolescence, par la pratique, par aussi le visionnage, de trouver ma place et trouver un médium avec lequel j'arrive à m'exprimer plus que d'autres d'ailleurs.
Et vous en avez fait votre métier pendant quelques temps ou toujours encore aujourd'hui?
Alors c'est mon métier. Souvent on me pose la question, dans quoi tu travailles dans le cinéma?
Ouais. Vous n'êtes pas acteur?
Non, voilà. En fait, il y a tellement de métiers, il y a tellement de façons de vivre de cet art-là. Souvent, il y a des clichés qui sont liés à ces différents métiers. C'est très large, le cinéma. Moi, j'ai fait une école de cinéma il y a 10 ans et je suis réalisateur. Mais à côté de ça, le cinéma me permet de faire des activités très, très variées aussi. Donc, il y a pas, c'est pas aussi formel et aussi formaté que ce que l'on pourrait croire.
On va écouter ce qu'a récolté Robin hier, mon stagiaire qui s'est rendu dans la rue avec son micro. Écoutez, ça parle de cinéma.
Que représente pour vous une séance de cinéma?
Ce que j'aime, c'est vraiment la prise d'initiative, la nouveauté, et quand le cinéaste essaye de renouveler les codes et s'inscrit en rupture avec la mouvance dominante. Je trouve que oui, on perd un peu ce moment magique où on est vraiment dans le noir, dans une salle avec des inconnus et qu'on... On est tous devant ce film en train d'expérimenter tous ensemble une expérience.
C'est un moment convivial à passer avec des personnes qu'on aime bien, mais j'en fais pas un moment très spécial et J'y attache pas tant d'amour que ça, mais c'est un moment que j'apprécie quand même.
C'est des conditions idéales pour apprécier le film à sa juste qualité. Et puis, c'est aussi la possibilité de partager avec d'autres personnes un moment d'émotion, voire d'en discuter après. C'est un moment de réflexion. Alors, si on a bien choisi son film, c'est l'occasion de réfléchir un peu et de voir des choses sous un aspect vraiment différent. Et puis aussi donc d'être bouleversé intérieurement, voire de penser différemment.
C'est pour l'ambiance, ça rien ne ressemble à une salle de cinéma. L'écran, le son, le fait de se retrouver autour d'un film sympa. Je vais plutôt voir des films qui valent le coup sur grand écran. On peut pas vraiment reproduire la même sensation chez soi. Oui, c'est un moment à part, c'est sympa, c'est assez simple. C'est un moment simple à passer avec ses amis. Je déconnecte vraiment, c'est un moment où j'oublie un peu tout ce qui se passe à côté. C'est une grande salle noire où on est plongé dans un film. Alors moi, je vais plutôt voir des films d'ambiance, des films loin de la réalité du quotidien. Donc je déconnecte vraiment pendant 2-3 heures. Donc c'est vraiment super sympa.
Et tout comme ces personnes, n'hésitez pas à nous dire ce que vous apporte le cinéma dans votre vie au 04 72 38 20 23. Il y a de quoi dire, hein, Jean-Baptiste Drouet. Moment magique, je reprends certains mots. Une expérience unique aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous allez au cinéma? Est-ce que vous appréciez ce moment un peu à part?
Vous parlez de rendez-vous, en fait. Ouais. Aller au cinéma, c'est quelque chose de... Qui n'a jamais... En fait, le cinéma s'est toujours construit avec des révolutions technologiques en termes de diffusion, la télévision, Internet, et là, notamment, les plateformes qui changent complètement le mode de visionnage. Et je crois que, finalement, le cinéma est bien plus adapté à la salle de cinéma. Cette expérience, elle est absolument unique. On a l'habitude de regarder des films sur petit écran, mais finalement aller au cinéma, c'est au-delà même de la qualité du dispositif, c'est une façon de partager justement les émotions, et je crois que c'est l'essence même de la création des Frères Lumière, le cinématographe, qui est dédié justement à la rencontre et à la projection publique avec une image grande, un son immersif. C'est ça le cinéma, je crois.
Vous êtes le directeur d'une association, je l'ai cité tout à l'heure, qui s'intitule La Septième Voix. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la jeunesse de ce projet, puisque vous faisiez partie d'une société de production dans la pub, hein, dans le domaine publicitaire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que le domaine publicitaire est un domaine très intéressant, très créatif, mais toute mon énergie, je la dédiais justement à la réalisation de projets commerciaux, et j'en avais un petit peu marre, et j'avais envie de donner du sens à mon médium, et finalement ce projet de La Septième Voix, qui est un projet où on développe la cinéthérapie, m'est paru évident. Et en fait, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux permettre au cinéma d'être un médium accessible? Et finalement, j'avais souvent eu le désir justement de développer des projets collectifs. Et en fait, La Septième Voix, c'est la cinéthérapie. Et le but, finalement, c'est de réunir un groupe de personnes qui est lié par une même problématique afin d'en faire un film. Moi, je les accompagne dans l'écriture.
Ouais. C'est quoi la cinémathérapie? Parce que j'ai l'impression que c'est un nouveau terme. Ça existe depuis pas très longtemps. Est-ce que c'est comment dire, un modèle médical, ou alors c'est quand même assez expérimental?
C'est un peu les deux, en fait. J'aime pas trop forcément le terme médical, parce qu'on aura l'impression que les bénéficiaires sont des personnes qui ont des problèmes, justement. Ouais. C'est plus que ça. Donc c'est surtout, c'est de l'art-thérapie, finalement. C'est un médium culturel.
Comme la musicothérapie, comme la peinture-thérapie, je sais pas comment ça s'appelle.
Oui, et ça s'est développé depuis très très longtemps. Et finalement, la cinéthérapie, ça existe d'une façon un peu informelle. Et moi, j'ai eu le désir de le formaliser un peu plus, notamment par un premier projet pilote que j'ai pu réaliser avec l'université de Lyon 1. Et oui, la cinéthérapie est un concept, on pourrait dire récent, mais en soi, ça existe depuis longtemps. Mais j'avais besoin de le formaliser.
Le cinéma qui fait du bien, alors?
Le cinéma qui fait du bien, j'aime bien ce terme, ouais.
Et comment ça fonctionne?
Comment ça fonctionne?
La Septième Voix.
Alors, La Septième Voix.
Autant aller voir des films au cinéma qui font du bien, ça, ok, ça existe, mais alors qu'est-ce que vous faites concrètement par le cinéma, par le film?
En fait, je pense qu'il est important aussi de donner la voix à des personnes qui en ont besoin, à la fois par l'expérience de la création cinématographique, et aussi dans l'idée de la diffusion du film que ce groupe aurait créé afin de sensibiliser la société à leur cause. Et moi, on avait le souhait justement de donner la parole par la création cinématographique. Donc, comment ça fonctionne? C'est un groupe de personnes qui sont volontaires, qui bénéficient de ce projet-là. Là, en l'occurrence, c'était des étudiants à l'université Lyon 1, des étudiants étrangers qu'on a réunis avec le service de santé universitaire afin de créer un groupe de parole dans un premier temps. Donc des témoignages forts ont pu être délivrés. Et à partir de ces témoignages-là, ensemble, on a construit donc un récit, un scénario. Donc c'est un processus long, parce que le cinéma est un processus long.
Ça s'écrit.
Ça s'écrit, il faut du temps. D'autant que il ne s'agit pas de professionnels, c'est des personnes, des étudiants qui pouvaient avoir un intérêt pour le cinéma, mais qui n'avaient jamais eu de pratique, en l'occurrence cinématographique. Moi, j'étais là pour les accompagner, pour donner une forme professionnelle justement à leur expression, jusqu'au tournage, qui est un moment très très fort, intense, où finalement les étudiants, en l'occurrence, et c'est un peu le souhait de ce projet-là, ont pu trouver leur place, à la fois devant la caméra, derrière la caméra, accompagnés par une équipe de professionnels. Et c'est un peu comme une colonie de vacances où c'est un moment très spécifique où les liens humains sont renforcés. Il se passe quelque chose de magique. Pas pour rien qu'on parle de la magie du cinéma. Puis la diffusion, enfin, ces mêmes étudiants sont là pour porter la diffusion de ce film. C'est là aussi qu'il y a une sorte de basculement. Ils deviennent acteurs du film, acteurs de la société, parce qu'ils sont là pour véhiculer leur message. Il s'agit bien de leur message.
Alors justement, soyons précis quand vous dites écrire des scénarios, par exemple, avec ces étudiants de l'université Lyon 1. Ce sont des scénarios qui portent sur quoi? C'est pas des films de zombies, c'est vraiment sur leurs histoires.
Exactement.
Sur ce qu'ils ont envie de dire, en fait.
Mais c'est tout à fait ça. Donc forcément, les idées fusent et dans le groupe, ils étaient 7. Hein. Ouais. Comme la 7e voie, c'est pas fait exprès d'ailleurs. et donc y a ces 7 étudiants qui viennent de pays très très différents, le Bénin, Amérique du Sud, etc. Donc c'était un groupe assez avec des profils différents. Et donc finalement, on a essayé de trouver un récit commun qui pouvait justement ressembler à leurs histoires. En fait, l'idée, c'est de trouver le commun ensemble, en acceptant justement les différences. Et c'est leur histoire. Donc finalement, le récit, il essaye de s'incarner dans leur réalité. Donc c'est un cinéma assez... on parle de cinéma vérité, mais c'est un peu l'idée aussi de ce cinéma-là. C'est que ça soit... Les personnes dont parle le film sont les personnes qui ont écrit le film. Voilà.
Donc il y a un temps qui doit être quand même assez important en amont de tout ça pour entendre les témoignages, pour recueillir les témoignages de toutes ces personnes.
Oui, alors effectivement, il faut plusieurs séances. Là, c'était toutes les deux semaines, on se réunissait plusieurs heures.
C'est pas des séances de cinéma. Hein.
C'est pas des séances de cinéma, mais même si on aurait pu aussi regarder des films ensemble. Ouais. Non, c'est des séances où toutes les deux semaines, on se réunissait. Dans un premier temps, je crois qu'il y en a eu 5-6 séances de témoignages, des moments de qualité où ils étaient en confiance. Donc l'idée, j'étais accompagné par une psychologue et une infirmière. Ça, c'est hyper important de le souligner, cet accompagnement, on va dire, de santé, pour permettre justement une parole saine, libérée dans un cadre serein. Et donc finalement, cette partie témoignage, elle a duré assez longtemps, mais justement pour que le récit soit vrai, il fallait qu'on puisse ensemble créer des liens forts dès le départ.
Comment vous avez imaginé tout ça? Vous étiez tout seul dans le projet ou vous étiez peut-être plusieurs à remuer votre cerveau pour vos cerveaux pour imaginer cette association La 7e Voie? Parce que passer quand même, c'est assez original, passer d'un boulot dans une société de production autour de la publicité à une association pour les autres, moi je trouve que c'est toujours des étapes qui sont importantes.
C'est un point de basculement dans une vie, effectivement, parce que j'étais rempli de doutes et finalement, c'est lors d'une nuit blanche, j'ai pas arrêté de cogiter et ça m'est paru assez évident progressivement. Et en fait, j'avais besoin d'écrire le projet et en une soirée, j'ai écrit absolument tout le projet pour pouvoir mettre des mots là-dessus. Et ensuite, j'en ai parlé autour de moi, j'ai trouvé des personnes qui étaient intéressées par celui-ci, notamment un ami qui s'appelle Antoine Delabaume qui fait partie du projet, Sarah Legros, qui est une amie aussi, qui sont tous plus ou moins liés au cinéma, pour me permettre justement de défendre ce projet. Et ensuite, ceux qui se sont appropriés le projet d'une façon formidable, c'est l'équipe du service de santé universitaire qui ont vraiment été partie prenante dans la construction de ce projet pilote cette année.
Ouais, ça a été bien reçu, bien accueilli.
Et tellement simplement. Je connaissais la médecin chef donc de ce service-là et je l'ai croisée par hasard dans la rue et j'ai eu l'intuition de lui en parler. Je lui en ai parlé et elle m'a dit « Ok, on y va ». Et ensuite, on en a parlé à l'équipe. Ils ont dit « Ok, c'est génial ». En fait, le cinéma, c'est fait rêver. Donc, c'est plus simple de proposer ce type de projet parce que c'est un véhicule hyper fédérateur.
Parce que Lyon 1, donc cette université, il y a un cursus autour du cinéma ou pas du tout, c'est pas du tout lié.
Eh ben absolument pas. C'est une université Lyon 1, c'est beaucoup plus lié justement aux formations liées à la santé, ouais. Technologique, etc. Donc les étudiants qui ont participé à ce projet-là n'ont rien à voir avec le cinéma et donc non, je trouve ça formidable qu'une université qui ne soit pas liée au cinéma puisse défendre, financer. C'est la CEVEC qui a financé ce projet, financer un projet pour justement grâce au médium cinématographique permettre à des étudiants de s'exprimer et parler d'une problématique concrète, celle des étudiants primo-arrivants étrangers.
Voilà, Jean-Baptiste Drouet, notre invité du jour, directeur de l'association La Septième Voix. On va être rejoint vers 10h20, 10h30, c'est promis, par Nicolas Legac, qui est le directeur d'une association qui s'appelle J'ai vu, un documentaire, et qui est basé à Lorient. Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole pour nous parler de cinéma ce matin. Parlez-nous de vos habitudes de cinéma et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie. Parlez-nous de cette expérience un peu particulière. On a entendu quelques témoignages tout à l'heure. Venez témoigner au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23. On va accueillir tout de suite notre chroniqueur. Et nous sommes avec Jules Girardet, chargé de mission Amérique latine au CCFD Terre Solidaire. Bonjour Jules.
Bonjour Melchior.
Vous allez nous parler du Nicaragua, un pays d'Amérique centrale en proie à un recul de la démocratie depuis plusieurs années. Quelle est la situation sur place, Jules ?
Alors vous vous rappelez, Melchior, il y a 4 ans, le pays avait été secoué par une vague de contestation massive qui visait la démission d'Ortega, ex-guerrero de 76 ans, et de sa femme vice-présidente Rosario Murillo. Et la répression avait fait plus de 300 morts, des milliers de blessés, des opposants avaient été emprisonnés, des partis politiques interdits, des médias indépendants saisis et des dizaines d'organisations criminalisées. En fait, ce qu'on voit, c'est que le coup présidentiel Ortega a réduit à néant toute tentative d'opposition à leur régime autoritaire par une vague d'arrestations et de répression qui n'a épargné absolument personne. Et donc, en véritable état policier, le régime a mis en place tout un arsenal législatif pour réprimer sévèrement les ONG et les médias.
Et comme beaucoup d'organisations, votre partenaire, Cantera, a été fermé par le gouvernement, je crois, Jules. Pourquoi ?
Alors oui, la société civile est dans le comité d'ordre du gouvernement. Ce sont plus de 200 ONG et associations qui ont été dissoutes depuis 2018. Et Cantera, notre partenaire, organisation d'éducation populaire qui œuvrait pour le bien-être des jeunes dans les quartiers populaires depuis plus de 30 ans, s'est vu retirer son statut juridique tout récemment fin avril. Ça signifie que l'État va saisir les locaux, les équipements, le matériel de l'organisation, alors que tout ça a été construit bien évidemment avec le soutien du CCFD, mais surtout par le travail et le volontariat des jeunes de ces quartiers. Et la véritable raison de cette fermeture, c'est que Cantera contribue à la construction d'une pensée critique, considérée comme déviante de la ligne du régime, et donc perçue comme un danger. Donc les assauts au Nicaragua sont constamment stigmatisés, accusés de corruption, enfin de conspiration contre l'État, de trahison et de mercenariat à la solde des États-Unis. Comme le disait récemment un ami exilé, c'est le pire moment de l'histoire du Nicaragua pour la défense des droits humains.
Et donc quel avenir est possible d'après vous pour toutes ces organisations ?
Pour le moment, c'est la fuite et la survie. San José, capitale du Costa Rica, petit pays voisin, c'est devenu le refuge des opposants politiques, des journalistes, des étudiants, des acteurs des mouvements sociaux. C'est pas loin de 150 000 personnes qui ont pris la route de l'exil au Costa Rica depuis 2018. Alors pour eux, l'exil, ça signifie pas la fin du combat. Par exemple, les activistes du Centre nicaraguayen de défense des droits humains se sont immédiatement reconstitués autour d'un nouveau collectif qui s'appelle Nicaragua Plus Jamais Ça, pour documenter les violations de droits humains, pour dénoncer les crimes du régime d'Ortega. Et le collectif aussi apporte un soutien juridique et psychosocial aux familles de victimes. Car ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que pour eux, survivre, c'est la plus grande résistance politique possible. Et le collectif, d'ailleurs, en est certain. Un jour, justice sera rendue et ils seront là pour témoigner des atrocités commises par le gouvernement Ortega.
Voilà, le collectif Plus Jamais Ça, on peut aller retrouver plus d'informations sur le site du CCFD Terre Solidaire, ccfd-terresolidaire.org. Merci beaucoup Jules Girardet pour toutes ces informations. Jean-Baptiste Drouet, ça vous parle un peu ce scénario, en tout cas c'est une réalité, hein, de ces populations opprimées. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur ces jeunes qui ont pu construire un scénario dans l'association La Septième Voix.
Oui, je pense que cette jeunesse-là, toutes les jeunesses finalement du monde entier cherchent à trouver sa place dans la société et par différentes méthodes. Pour ma part, effectivement, la méthode que je propose, ouais, elle est créative. Et je crois que c'est la meilleure façon c'est selon moi pour toucher le plus de personnes possible. Le cinéma est comme tous les arts, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire. C'est-à-dire que quand un film touche, finalement, il est toujours relayé. Et c'est un peu la force de la diffusion. Il y a toujours un étonnement quand un film ou un livre, quand une création est partagée. Et notamment grâce à Internet, ça reste. Et c'est un peu cette force-là que je propose à ces étudiants, parce qu'ils peuvent témoigner, partager leur point de vue sur le monde et toucher le plus grand nombre de personnes.
Pourquoi ce nom, La Septième Voix ?
Alors, La Septième Voix. Déjà, on pourrait croire VOIE, Septième Voix. Non, c'est Septième Voix, VOIX. Ouais. Le chiffre 7, est, mis à part d'être un chiffre sacré, c'est aussi le chiffre du cinéma, qui est un art sacré pour moi. Et le chiffre 7, la septième voie. Pourquoi la voie ? Parce qu'on souhaite ici, dans cette association, d'être une sorte de porte-voix. Oui. Et donner la parole justement à des personnes qui n'oseraient pas parler par ce médium cinématographique. Donc c'est assez simple en réalité.
C'est vrai que c'est simple, oui. Mais c'est efficace au moins. Oui. La septième voix, on retient ce nom. Donc témoigner, hein, c'est la première étape de cette... on va dire de cette méthode, hein, la cinémathérapie que vous essayez de développer dans l'association La Septième Voix. Et puis l'écriture aussi, c'est la deuxième étape. C'est un processus qui est plutôt long, l'écriture d'un scénario, d'une histoire.
D'un récit, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que bon, il y a toutes les conventions scénaristiques dans le cinéma, il y a ces formes que l'on connaît, des formes de récits qui sont des structures hollywoodiennes très formatées. Oui, le récit doit, selon ses conventions, respecter certaines règles. Mais en soi, ce qui est difficile, effectivement, c'est de réunir un récit commun, de trouver justement une incarnation à travers un ou des personnages qui puissent justement véhiculer l'histoire. Donc oui, ça a pris du temps, mais c'est un moment qui est incroyable, parce qu'on a justement organisé des improvisations aussi pour essayer, à travers le jeu, imaginer des situations qu'on n'aurait pas pu imaginer dans un contexte sans jeu.
Oui.
Et finalement, c'est un processus qui demande un peu d'inventivité, parce que il n'y a pas de méthode en soi. C'est les idées arrivent parfois par miracle. Il faut les saisir. En fait, le but, la sensibilité du réalisateur, de l'auteur ou de ces étudiants-là, c'est de saisir la bonne idée et de la faire grandir.
Françoise est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour. Je ne me souviens pas votre prénom, excusez-moi.
Melchior.
Gordon. Bonjour Melchior. Oh, c'est un beau nom.
Merci.
Je peux parler ?
Bien sûr, vous êtes à l'antenne.
J'ai eu envie de téléphoner parce que, bon, je suis retraitée, je suis chez moi, je prépare une compote, etc. Et je suis contente d'entendre parler de toutes ces choses-là. Pour moi, actuellement, un des principaux problèmes, c'est la valorisation de la culture. Et donc moi, je peux témoigner, je vais avoir 75 ans. J'ai rencontré le cinéma à l'école primaire. Mais bon, à l'époque, j'étais scolarisée à Nancy. Et donc, on allait à l'école le samedi matin. Et le samedi après-midi, c'était un rite. On partait à l'école avec une pièce de 10 francs ou 20 francs, je ne me rappelle pas, parce que c'était des anciens francs, dans la poche ou la main pour donner à l'institutrice qui organisait ça. Et donc, j'ai commencé à aimer ça à ce moment-là. Elle choisissait évidemment les films, hein. Et bon, c'était les films américains en noir et blanc, donc évidemment c'était Laurel et Hardy, mais il y avait aussi Buster Keaton et Charlie Chaplin. Et ça, c'est inoubliable.
Et ça vous a marqué ?
Oui, chaque fois que je peux revoir un film de Charlie Chaplin, je le revois. D'ailleurs, il y a la télévision pour moi en tout cas, qui est pour ça. Et puis les films, après, j'ai continué dans ma vie, malgré la télé. D'ailleurs, j'ai pas eu la télé pendant des années. On allait au cinéma le dimanche soir, on y va encore avec un de mes amis, mon ami de Sinoche. Pour au début, c'est un rite aussi pour tuer le blues du dimanche soir, parce que le lendemain matin, il faut être sur pied dans sa classe. Et donc, les films que je préfère, moi, ce sont les films non français. Parce que le cinéma, c'est une évasion. Et puis, c'est aussi un moyen d'accès à un autre monde où j'irai jamais. Dans les pays de l'Est, les pays les Chinois, tous les Japonais, etc., etc. Et oui, ils ont une vision du monde tellement différente de la nôtre que c'est peut-être déstabilisant, mais c'est bien aussi, parce que ça nous fait du bien. On voit que comment on pense ailleurs. Et puis moi, je dirais aussi que le 7e art, il mérite bien d'avoir un A majuscule, comme l'a dit tout à l'heure une personne avant moi, parce que, si vous voulez, il y a des symboles dans le cinéma qui relèvent totalement de l'inconscient. Et ça, ça se comprend d'un bout à l'autre du monde. On ne fait pas d'effort. Le symbole du 7, il a parlé du...
Ah bah c'est Jean-Baptiste qui a parlé de ça.
Mais il y en a plein, et puis c'est visuel. Et donc ça contrecarre un peu les publicités dont on est envahi par ailleurs et entouré bien malgré nous. Et puis donc ça favorise l'imagination. Et l'imagination, la créativité, c'est ce qui nous permettra peut-être de trouver un sens à notre vie dans la société qui se profile à l'horizon et qui est déjà là et qui n'est pas toujours très humaine.
Eh ben, merci Françoise pour ce témoignage très inspirant dans cette émission au 04 72 38 20 23. Jean-Baptiste Drouet, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Françoise. Déjà qui a été marquée, qui a été baignée par le cinéma dès sa petite enfance et ça a continué dans sa vie. Ça, est-ce que c'était le cas pour vous aussi? Vous avez dit que vous aviez des parents artistes, je crois.
Oui, ouais. Oui, tout à fait. Oui, alors, j'ai pas forcément découvert le cinéma durant mon enfance. J'ai vu plein de films, des films de Walt Disney. Enfin, voilà, j'étais transporté par ces films populaires-là. Mais ma cinéphilie, en fait, elle a plutôt grandi à l'adolescence ou à la fin de mon adolescence où j'ai réellement découvert des cinéastes, des sensibilités qui me résonnait bizarrement en moi. Et je me rappelle d'une fois où j'avais vu un film de David Lynch complètement fou qui s'appelle Inland Empire, qui est pas un de ses meilleurs, mais j'étais tout seul sur Canal+, dans le noir, j'ai vu ce film bizarre et j'ai été scotché. C'était la première fois que je comprenais que le cinéma pouvait scotcher et j'avais complètement oublié où j'étais. J'étais dans le film, une sorte de...
C'est ce que disait Françoise, c'est une évasion, on a accès à un autre monde.
Oui, il y a un réel accès avec un autre monde, et j'aime bien dire aussi que on est en relation avec le film que l'on regarde, mais le film que l'on regarde est aussi en relation avec nous-mêmes. Donc c'est une expérience qui est commune, partagée, mais aussi très individuelle, parce que ça provoque des choses à des moments précis de la vie qui peuvent parfois bouleverser.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Toujours avec Jean-Baptiste Drouet, directeur de l'association La 7e Voix qui se trouve à Lyon. Et on va faire un petit détour par Lorient, rejoindre Nicolas Legac qui nous a rejoint. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes le directeur de l'association J'ai vu, un documentaire. Alors vous étiez il y a quelques minutes, et c'est pour ça que vous nous avez rejoint en retard. Vous êtes excusé, vous inquiétez pas Nicolas, parce que un petit festival va commencer dans quelques jours.
Il a commencé.
Même aujourd'hui d'ailleurs, c'est ça ?
Oui, oui, il a commencé à l'instant à 10h. Il y avait une séance ce matin, une projection jeune public.
Voilà, et c'est pour ça que vous étiez pas là pour être voilà, dans ce festival. Ouais. Il s'appelle comment ce festival ?
Alors ce festival s'intitule le Joli Mai. C'est un festival qu'on a lancé en 2019 et qu'on a dû suspendre, reporter en 2020, 2021, etc. Mais donc là, c'est quand même la troisième édition.
Et qui se déroule en même temps que le festival de Cannes, c'est voulu.
Et oui, on fait, oui, tout à l'heure. Non, c'est pas voulu, non, mais je pense qu'il y aura plus de monde à Cannes, quoique, on va voir, on vous dira si vous voulez.
En tout cas, cette association, J'ai vu un documentaire, vous l'avez fondée en mars 2013. Quel est l'objectif de cette association? On imagine qu'il est vraiment tourné sur le film documentaire.
Oui, comme son nom l'indique, on a axé le projet de cette association sur la promotion du cinéma documentaire. On l'a créé en 2013 parce que, à Lorient, on estimait qu'il y avait une partie d'un cinéma, plutôt cinéma d'auteur, art et essai, indépendant, qui n'était pas montré, qui n'était pas sur les écrans. Et donc nous, on avait envie de partager cette passion qu'on a pour le cinéma documentaire, le cinéma du réel. Et donc on a créé cette association. Ça a permis aussi de lui donner une identité forte, hein, en l'accent sur le documentaire. Et puis l'idée, à la base, c'était aussi qu'on voulait avant tout ouvrir un cinéma. C'était notre rêve. Alors ça, c'est la bonne idée. Mais on s'est dit, on va y aller petit à petit, pas à pas, pour d'abord se faire connaître, voir si on est capable de fédérer un public, une communauté comme ça sur notre projet. Et puis donc voilà, ça fait maintenant, ça fait plus de 8 ans qu'on existe. Donc ça, c'est un projet qui marche, ouais.
Ouais, donc pour aller vraiment à la rencontre du public, pour leur faire découvrir, enfin pour faire découvrir à un public peut-être plus large cette notion de film documentaire, ça s'apprend d'après vous, Nicolas ?
Non, ça s'apprend pas, ça se partage avant tout et ça faut prendre plaisir en fait. Il faut nous notre travail c'est d'aller aussi au-delà du cliché que des stéréotypes qu'ont les gens sur le documentaire parfois quand on interroge par exemple les jeunes dans les classes parce qu'on fait beaucoup d'interventions aussi d'éducation aux images dans les établissements scolaires, on se rend compte que le documentaire pour eux c'est donc quelque chose de très télévisuel déjà où soit c'est animalier, soit c'est historique. Alors souvent ça veut dire que c'était un petit peu chiant parce que faut faire un effort, c'est un peu scolaire, tout ça. Et nous, on dit non, le documentaire, c'est avant tout du cinéma aussi. C'est un auteur derrière qui partage un point de vue, un regard sur le monde et qui utilise les mêmes outils que dans la fiction pour faire passer un message, pour raconter une histoire aussi. On raconte des histoires dans le documentaire. Donc c'est plutôt le travail, c'est ça, c'est d'aller au-delà de déconstruire ces clichés, ces stéréotypes. Et après, je pense qu'une fois qu'on a goûté, qu'on a découvert la richesse du cinéma documentaire, qui est extrêmement vaste, on se rend compte que oui, c'est du cinéma, quoi, à égalité avec la fiction.
Nicolas Legac, pardon, je vous présente à distance Jean-Baptiste Drouet, qui est avec nous depuis le début de cette émission, oui. Qui est lui à Lyon, voilà, et qui a monté une association qui s'appelle La Septième Voix. Jean-Baptiste, vous, le cinéma donc documentaire, les films documentaires, est-ce que ça vous parle? Vous avez l'habitude d'en regarder?
Alors, ça me parle plus que ça, d'ailleurs, parce que c'est, en tant que réalisateur, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Et oui, le documentaire. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à diviser documentaire ou film de fiction, et de plus en plus, je trouve qu'il y a une porosité. Et oui, le documentaire est quelque chose de fondamental pour moi, même dans mon expérience en tant que spectateur. Et c'est génial qu'il y ait ce genre d'initiative à Lorient, notamment. Je trouve ça formidable.
Oui, ça existe depuis 2013, Nicolas, on l'a dit tout à l'heure. Ça rencontre son petit succès ou pas chaque année, que ce soit d'ailleurs le festival ou même tout ce que vous proposez dans l'association. Et on va bien sûr avoir l'occasion d'en parler, puisque vous proposez par exemple des ateliers d'éducation aux images ou encore des ciné-bistrots. Ça aussi, ça se développe de plus en plus.
Oui, tout à fait. Ça a rencontré son public, comme on dit. Depuis, on est à environ 400 adhérents chaque année qui renouvellent leur adhésion à l'association. Et puis, oui, on a des belles fréquentations de séances. On a environ une quarantaine, entre 40 et 50 projections par an. Donc, ça fait environ quatre projections par mois. Et ce qu'on fait aussi, nous, c'est tout ce travail. C'est pas juste montrer un film et attendre que le film se termine et puis se dire à la prochaine fois. C'est on va à la rencontre du public et on crée un événement autour de la projection, quoi. Comme on n'est pas un cinéma, on projette en ce qu'on appelle le non commercial, hein. On n'a pas de billetterie CNC comme dans les cinémas, donc on loue les films, on paye des droits de diffusion, mais donc on peut aussi utiliser un simple vidéoprojecteur, un lecteur Blu-ray ou DVD ou un fichier. Et on va surtout dans des lieux qui sont pas habituels pour les projections. C'est ça qui crée aussi l'événement et le côté un peu atypique. C'est que, par exemple, on aime aller dans une ferme, une ancienne ferme pédagogique du Pays de Lorient, où il y a aujourd'hui deux maraîchers installés en agriculture bio, et on utilise l'ancienne salle qui était dédiée aux ateliers de cette ferme pédagogique, qui est aujourd'hui la boutique où ils vendent leurs légumes. Et on l'aménage en petite salle de cinéma avec, quand c'est l'hiver, on fait un feu dans la cheminée et puis on boit une soupe avec les légumes de la ferme. Donc on crée vraiment aussi un événement, une rencontre, où on va aussi de temps en temps, comme Lorient c'est au bord de mer, comme vous le savez, il y a la rade de Lorient avec des bateaux-bus, et on utilise des bateaux-bus pour faire des projections sur le bateau, et on va de port en port comme ça toute une soirée. en hiver, souvent avec un petit vin chaud. Donc on crée un événement spécial aussi, c'est une rencontre aussi le documentaire, pas seulement avec le film mais avec le collectif, quoi.
Et qu'est-ce qu'on regarde alors comme film documentaire ?
Oh bah tout, de tout. Nous on est, on fait un peu notre marché dans les festivals. Il y a aussi un réseau important en Bretagne qui est très efficace au niveau de la diffusion du documentaire, notamment pendant le mois du doc qui a lieu tous les ans en novembre. Et donc on est sur des. Alors des fois on aime aussi faire partager des petits films peu connus. Je prendrai pour exemple, il y a Génig de Vasken Tohranian, qui est un film magnifique sur une femme qui a été couturière toute sa vie dans un quartier, le quartier rouge de Marseille, et qui raconte toute sa vie entourée des prostituées qui étaient sa clientèle, quoi. Mais c'est plein d'humanité. Il y a aussi un film magnifique qui est notre petit chouchou qui s'appelle Voyage en sol majeur de Georgi Lazarevski. Donc ça, c'est des films, quand on le dit, qui peut-être qui ne disent pas grand-chose aux gens qui nous écoutent, mais c'est des films qui existent et qu'on a vraiment plaisir à faire découvrir. C'est des films, quand un film nous touche, on a envie de le partager, et souvent, les gens sont aussi touchés parce que c'est c'est le partage qui est important.
En tout cas, on entend que vous êtes quand même passionné par le cinéma, Nicolas Legac. Comment c'est venu chez vous ?
vaut mieux être passionné, c'est vrai, ouais. C'est plus agréable, en tout cas, quand c'est notre métier. Comment c'est venu ? C'est venu peut-être de loin, je sais pas. Déjà, tout petit, moi, j'aimais ça. Mon père programmait des films dans un centre culturel, et entre autres, en plus de son travail de programmateur jeune public théâtre. Mais il y avait un cinéma dans ce centre culturel où j'ai pu découvrir des films de Ken Loach, des films aussi, West Side Story, un grand souvenir. C'est une histoire aussi d'amour, quelque part. Hein. Moi, je sais pas, peut-être que on est tous comme ça, mais moi, je suis tombé amoureux de plein d'actrices dans des films. Nathalie Wood dans West Side Story, c'était un grand amour que j'ai vécu là. Donc, c'est aussi des choses très fortes qui ont des émotions. Et puis après, petit à petit, j'ai décidé de m'orienter vers ça en faisant un travail de recherche à l'université sur le cinéma de Ken Loach, le cinéma anglais. Et ensuite sur les premiers ciné-clubs anglais aussi, parce que j'étais dans une filière anglaise. Et petit à petit, j'ai travaillé dans des cinémas, les cinémas Utopia à Toulouse, et puis dans des festivals, le festival de cinéma de Douarnenez et l'association J'ai vu un documentaire.
Sylvie nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour et bonjour à vos invités. Je vous remercie pour vos émissions. Donc je vous appelle parce que dans mon village, nous sommes un petit groupe de paroissiens qui essayons de mettre en place un ciné-rencontre. Vous voyez, donc là, vous venez de parler de rencontre. Et
exactement.
Nous, on l'a appelé comme ça. Et donc, le projet, c'est de faire à peu près 3 projections par an avec le soutien de la paroisse et pour que les habitants de ce village se rencontrent. Vous voyez, parce que il y a des gens qui participent et qui œuvrent dans des associations de la commune. Et puis, il y a les paroissiens qui font beaucoup d'activités en lien avec la paroisse. Donc, l'idée, c'était de brasser un peu les personnes, que ça soit moins sectorisé, et que autour des idées, des parcours et des humains, que ça puisse se rencontrer, et de faire découvrir la foi chrétienne. Donc, c'est autour du film chrétien.
Et quel village, si on peut le citer, Sylvie ?
Oui, c'est Vernoux-sur-Brenne, entre
Amboise et Loire.
Oui, entre Amboise et Tours.
Eh bien, écoutez, c'est une belle initiative, en tout cas. Sylvie, vous réunissez toutes les semaines, tous les mois ?
Non. C'est très modeste. Je vous dis, on prévoit 3 projections par an et on en a déjà fait une là.
C'est bien. Et ça a bien fonctionné alors ?
Pas autant que nos espérances. Hein. C'est modeste. Hein. Mais je vous dis, c'est tout nouveau. Donc, voilà. Donc, je vous ai entendu parler de cinéma. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion.
C'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Sylvie, de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Jean-Baptiste Drouet, c'est Ciné-Rencontre. Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, en France. Mais ça rejoint ce qu'on disait aussi en début d'émission. Le cinéma peut permettre la rencontre.
Oui, et puis, faut savoir aussi que ce tissu associatif, toutes ces initiatives-là, ce sont ces initiatives qui permettent la rencontre. Oui, il y a les grands festivals qui permettent justement de donner un peu de notoriété au film, mais il y a tellement de ciné-clubs inconnus au coin de la rue, se cachent parfois des ciné-clubs que l'on ne connaît pas. Ce tissu-là, effectivement, permet justement des rencontres, des rendez-vous. Et c'est quand même la vocation du cinéma de partager ça, effectivement.
Si on en revient à la 7e voie, l'association que vous avez cofondée, il y a la dernière étape, c'est la diffusion du film qui a été réalisé. Et là aussi, c'est encore une rencontre qui est importante avec celles et ceux qui vont pouvoir visionner les films.
C'est presque la partie la plus importante parce que là, on a eu l'occasion, il y avait un festival universitaire à Lyon 1, au Théâtre Lastré, et donc on a pu diffuser deux fois le film. Et donc il y avait un public qui ne connaissait pas le projet et nous, donc les étudiants, moi-même et puis l'équipe de santé, on a pu avoir des réactions de ce public-là qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Et là, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est le but final, le but ultime de notre projet, c'est la diffusion. Et ce type d'espace-là, effectivement, c'est ce qui donne sens à la création.
Nicolas Le Gac, cette rencontre autour de films documentaires, ces rencontres que vous organisez chaque année dans l'association, j'ai vu un documentaire. Qu'est-ce qu'elle vous apporte aussi, peut-être à vous et puis bien sûr aux personnes qui participent à ces rencontres? Est-ce que c'est des discussions qui sont souvent quand même assez intéressantes pour revenir sur certains films, pour décrypter des scènes?
Oui, c'est l'idée, c'est que les gens se rendent compte aussi de ce que c'est que l'écriture d'un film. Après, au-delà d'avoir eu aussi des émotions durant un film, si on a eu des émotions, c'est que le film est construit d'une certaine manière, qu'il est pensé, qu'il est aussi que c'est un message qui est transmis, quoi, une histoire qui nous a raconté, comme je disais tout à l'heure. Et donc, ça c'est important d'en parler aussi, que les gens se rendent compte de ça. Et c'est toujours très très riche comme échange quand un réalisateur ou une réalisatrice est là pour expliquer comment ça s'est passé. Souvent dans le documentaire, en plus, il y a une, à la différence, on va dire, du reportage, parce que des fois les gens confondent un peu les deux aussi. Mais un documentaire, ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps à être fait, à être tourné, monté. Et ça, les gens souvent le savent pas. C'est une toute petite économie aussi. Et moi, je suis toujours en admiration devant ces cinéastes qui consacrent autant de temps et d'énergie sur des films qui après sont partagés, quoi, avec les gens. Donc c'est bien que les gens puissent aussi apprendre ça. Et puis c'est toujours riche de discuter avec un artiste, une artiste sur un film. C'est ce qui est important, c'est qu'il y ait ces moments en tout cas de discussion, parce que souvent c'est, alors pas systématiquement, mais quand on va voir un film, dans certains cinémas, on rentre par une porte, on sort par une autre, et puis il n'y a pas eu d'échange, on a juste vu le film, ce qui est déjà pas mal. Mais ce qui est bien justement, c'est de pouvoir avoir un instant de convivialité, de pouvoir échanger, débattre, et après ça fait avancer aussi dans nos réflexions. Parfois, quand il y a des discussions un peu, on va dire, politiques, entre guillemets, sur le sens aussi de la vie en société, c'est toujours très riche de confronter des avis, des points de vue, etc.
Moi, Jean-Baptiste, vous confirmez ?
Le cinéma fait parler, oui, beaucoup. Et c'est important justement qu'il y ait ce moment, ce type de moment pour échanger avec effectivement les créateurs ou tous ceux qui ont pu participer à la création d'un film, parce que c'est l'occasion justement de comprendre avec peut-être plus de subtilité, de prendre conscience aussi des enjeux. Ça reste une expérience individuelle, mais quand il y a la possibilité de rencontrer les créateurs, les auteurs, c'est ça qui donne l'intérêt à ce type de festival où beaucoup de cinémas, d'ailleurs, d'art et essai organisent des rencontres. C'est beaucoup de travail. Je connais des programmateurs, en tout cas des personnes qui gèrent ce type de choses dans les cinémas. C'est un investissement total, mais les rendez-vous sont toujours pleins parce que c'est l'occasion ou jamais de rencontrer ces personnes.
Et on continue d'en parler jusqu'à 11h ce matin dans Je pense donc j'agis. On écoute un peu de musique avec George Ezra, un tout nouveau single de cet artiste. Et on attend bien sûr vos appels, tout comme Françoise et Sylvie, au 04 72 38 20 23. A tout de suite sur RCF.
Flying over the Serengeti, Tiger Lily, don't forget me. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I could love you.
C'était Georges Ezra pour vous accompagner sur RCF, extrait de son prochain album qui va sortir dans quelques jours, le 10 juin, Anyone For You.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et toujours avec nos deux invités pour parler de cinéma ce matin, Jean-Baptiste Drouet, vous êtes le directeur de l'association La Septième Voix, et puis Nicolas Legac, directeur de l'association J'ai vu un documentaire. Nicolas, je ne vous ai pas posé cette question, mais je l'ai posée à Jean-Baptiste tout à l'heure. Le festival de Cannes s'est ouvert hier, hein, 75e édition. C'est un festival que vous avez l'occasion de suivre.
Alors de suivre, oui, comme quasiment nous tous là, à distance. Mais sinon, j'y suis jamais allé, non. Mais sinon, je suis, oui, bien sûr, toujours le palmarès, quoi.
Oui. Ce festival qui se déroule en même temps que le vôtre, et ça aussi, c'est important de le souligner ce matin. Ce festival qui s'appelle le Joli Mai, que vous organisez depuis longtemps.
Oui. Donc c'est la troisième édition. La première c'était en 2019, qui avait très bien marché à notre échelle, hein, toute modestie bien sûr, mais qui avait rencontré son public. Là en fait on est dans une salle qui est vraiment ancrée dans un quartier. C'est une salle multiculturelle. C'est pas une salle de cinéma uniquement. Et on l'aménage donc en cinéma et éphémère comme ça pendant 5 jours avec un petit bistrot, des ateliers et puis une salle où on passe les films et où on organise les rencontres.
Comment vous allez les dénicher, tous ces films que vous proposez?
Bah c'est à la fois, donc on cherche, on creuse, on cherche, on regarde ce qui se programme ailleurs, on reçoit des films également. Je l'ai pas dit, mais on fait aussi partie de, on s'occupe de la compétition documentaire d'un autre festival plus gros, celui-ci sur l'île de Groix, qui est juste en face de l'Orient. Le Festival international du film insulaire de l'île de Groix, le FIFIG. Donc là, ça nous permet aussi de visionner énormément de films pour la compétition qui compte une douzaine de films chaque année, au mois d'août. Donc c'est aussi comme ça qu'on découvre des films. Puis après, il y a tout le réseau, comme je le disais tout à l'heure, en Bretagne, d'autres associations dans des villes à Millionnec, en Centre-Bretagne, à Rennes, à Vannes, à Douarnenez. On est très très en lien et donc on échange beaucoup d'infos aussi sur des films qu'on a découverts. Et puis on fait des festivals aussi, festivals comme Cinéma du Réel à Paris, ou alors aussi Vision du Réel, un très beau festival un peu plus loin en Suisse, à Nyon. Donc il y a des rendez-vous un peu immanquables comme ça, ou qui nous permettent, parce que là c'est des gros festivals aussi qui ont des gros moyens pour aller dénicher des films de partout dans le monde. Donc ça c'est des... Et puis on épluche les catalogues. Ça c'est le catalogue de festival. Même si on n'y va pas, on le demande, on le reçoit par la poste. Et ça c'est un outil indispensable également.
Et comment du coup vous sélectionnez les films que vous allez proposer à votre tour dans le festival?
Eh bien ça dépend de à la fois les coups de cœur qu'on a. Ça on les met de côté et on les programme de toute manière. On a vraiment envie de les partager. Il y a aussi d'autres films qu'on aime et qui peuvent rentrer dans des thématiques. On travaille en partenariat avec beaucoup d'associations, comme la CIMAD par exemple. On organise depuis maintenant 6 ans les Ciné-CIMAD, donc des rencontres autour de la thématique des frontières, des exils, des migrants. Donc ça, dès qu'il y a un film sur la thématique qui nous plaît, et puis on les visionne aussi avec les membres de la CIMAD du Morbihan avec qui on travaille. Donc là, on construit avec eux la programmation. Donc des fois, ça répond à des thématiques précises qui nous sont demandées par des partenaires associatifs. Là, bientôt, on va travailler avec, par exemple, il y a un petit festival qui a été monté par l'école Ascoria, qui est une école de formation au métier du social et du sanitaire. Donc, ils forment les éducateurs spécialisés, aussi les assistants sociaux. Et tous les ans, ils ont un festival. On travaille avec eux sur la programmation. Donc là, sur des thématiques bien précises liées à la santé, etc. Donc c'est à la fois répondre à des demandes et puis partager des coups de cœur.
Vous faites beaucoup de choses, hein. On l'entend, Nicolas Le Gac, du côté de Lorient. On retourne au standard où nous attend Elisabeth, au 04 72 38 20 23. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Ben, ça va et vous?
Oui, ça va très bien.
Bon, donc, tant mieux.
Il y a 80 ans, j'étais tombée amoureuse d'un artiste de cinéma parce que j'allais au cinéma avec mes parents. Donc j'avais 6 ans, 7, 8, 9, 10, etc., jusqu'à au moins 15 ans, au cinéma de la Rédemption, qui ouvrait une salle où il y avait des projections tous les dimanches. Il fallait aller retenir vers 1h, 2h de l'après-midi des places. Donc on m'envoyait, c'était à deux maisons de chez nous, donc dans le quartier du...
À Lyon, hein, je précise.
Pardon ?
À Lyon.
À Lyon, dans le quartier des Brotteaux, voilà. Le cinéma de la Rédemption donnait des films de 4 heures, à partir de 4 heures, tous les dimanches après-midi. Donc quand on avait envie d'aller au cinéma, on y allait. Donc avec mon père, c'était presque tous les dimanches, surtout en hiver. C'était merveilleux de se retrouver là-bas avec des films avec Bourville, Fernandel. On était morts de rire. On emmenait maman, mais qui malheureusement dormait tout le cinéma.
Ça arrive, ça.
Oui, voilà. Bon, donc avec elle, c'était pas top après d'aller au cinéma. Voilà, je voulais vous dire, c'est là que j'ai rencontré Jean Marais au cinéma. Et je suis tombée amoureuse depuis, je n'ai pas arrêté avec La Belle et la Bête. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth, d'être venue à l'antenne pour partager avec nous ce témoignage. Jean-Baptiste Drouet, Jean Marais, c'est un...
Oui,
un grand, très grand pour vous, hein. Je veux dire.
Bah, c'est un très grand. Elle citait le film de Cocteau. Oui, Jean Marais, c'est un comédien qui avait sa marque, son style de jeu. Il avait cette fameuse figure qui a marqué le cinéma. Il y a plein de figures qui ont marqué le cinéma, mais il y a des visages parfois qui nous marquent à jamais. Et oui, Jean Marais fait partie de ces visages incontournables, c'est clair.
Pour la septième voie, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, si jamais certains ou certaines de nos auditrices seraient intéressées pour tester cette expérience de cinémathérapie, en tout cas écrire un film pour peut-être se libérer, pour parler de soi, comment on peut faire? Est-ce que vous êtes le seul en France à faire ça, à Lyon en tout cas? Quelle est la situation?
Je ne sais pas si je suis le seul. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui permettent ce type d'exercice, en tout cas. Mais en soi, la septième voie, nous, le projet, c'est de collaborer systématiquement avec des associations, des institutions qui ont une thématique particulière. Et cette collaboration, justement, sert aux bénéficiaires de ces structures-là. Donc, en tout cas, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Mais moi, j'invite tout le monde à faire du cinéma. Le cinéma s'est démocratisé dans sa fabrication et c'est plus ce métier, enfin cet art qui est destiné aux professionnels, techniciens et artistes. C'est quelque chose qui est populaire et qui est démocratique.
Jean-Baptiste Drouet, je reste avec vous. Un film, alors c'est très dur comme question, un film à conseiller à nos auditeurs, auditrices ce matin qui vous a bouleversé, qui vous a marqué, que vous pourriez voir X fois dans votre vie?
Alors c'est un film que je n'ai vu qu'une seule fois et je redoute la prochaine fois où je vais le voir, parce que c'est un film de Tarkovsky qui s'appelle Solaris. Et en fait, bon, c'est une expérience personnelle, donc je ne sais pas si d'autres vivront la même que moi, mais j'ai été bouleversé par la scène finale. Et
ne révélez pas la scène finale.
Je ne la révélerai pas, mais en tout cas mon émotion était très particulière. J'ai pleuré, mais de façon sans m'arrêter. Une émotion qui venait de je ne sais où. C'est la première fois que j'ai éprouvé une émotion aussi profonde en regardant un film. Donc Solaris de Tarkovsky, qui est un cinéma poétique, extrêmement poétique. Je convie les gens à regarder en tout cas le cinéma Tarkovsky si ce n'est pas le film Solaris en question.
Qui est sorti en 1972 et qui est centré sur la station spatiale.
Exactement, hein. C'est un film de science-fiction, mais de poésie principalement.
Et qui a remporté en 1972 le Grand Prix du Festival de Cannes, justement, oui. Qui avait été nommé pour la Palme d'Or. Tout est lié ce matin. Nicolas Le Gac, même question difficile pour vous.
Ah, il y a un film qui est sorti au cinéma récemment et qui s'appelle un film donc documentaire qui s'appelle Le Seuil Libré. Alors que vous pouvez peut-être encore trouver sur, dans des cinémas à Lyon, sans doute, et qui est le
ou ailleurs, hein, bien sûr, ouais.
Ou ailleurs, bien sûr, oui, tout à fait, et qui est, c'est la réalisatrice qui a fait un film sur son frère et qui a filmé son frère pendant plusieurs années sur son frère qui a quelques difficultés, on va dire, dans la vie pour trouver son chemin, mais donc elle le filme, c'est très très beau, c'est très sensible, et c'est extrêmement extrêmement fort.
Le seuil, et j'ai pas compris la suite du titre.
Seuil libre. Mon accent espagnol n'est pas très bon, hein. Je suis libre.
Ah oui, seuil, d'accord. Seuil libre. J'écris là en français le seuil. Ouais. Ok, Seuil, voilà, Seuil Libré, d'accord, donc un film documentaire réalisé par Laure Portier, c'est ça, qui est sorti il y a quelques semaines d'ailleurs, le 9 mars.
Ouais, c'est vraiment un film à découvrir, magnifique.
Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission.
Merci,
Nicolas Le Gac, je rappelle que vous êtes le directeur de l'association J'ai vu un documentaire, à retrouver sur le site jaivuundocumentaire.fr, avec ce festival Le Joli Mai qui se termine dans quelques jours, qui a ouvert aujourd'hui, qui se terminera le 22 mai. Voilà pour toutes ces informations. Merci Jean-Baptiste Drouet, oui, d'être venu ici en studio pour La Septième Voix, cette association que vous avez fondée avec une autre équipe, hein, Sarah Legros et Antoine Delabaume, à retrouver sur le site la7emevoix.org.
Voix V-O-I-X. Voilà, pour pas se tromper.
Exactement. Merci beaucoup Jean-Baptiste.
Merci, Melker.
Merci également à Hugo, Catherine et Robin qui ont permis la réalisation de cette émission. Demain, on va se retrouver, non pas pour Je pense donc j'agis, mais vous savez, pour les Jeudis du Don. Vous allez nous montrer encore et toujours votre générosité pour soutenir des beaux projets de vos radios locales. Moi, j'aurai le plaisir d'être avec vous. Tenez-vous bien, de 7h à 15h30. Alors, pas non-stop, hein, non plus, quand il y aurait des petites pauses pour moi, mais en tout cas, ce sera un plaisir d'être avec vous. Et vendredi, sachez-le, il n'y aura pas de presse club ni de jardinage. On parlera de la générosité des Français avec une vraie question. Les Français sont-ils encore généreux? Ce sera de 9h à 11h avec Philippe Lansac et bien sûr nos invités. Je vous invite une fois de plus à rejoindre notre groupe Facebook où vous pouvez réagir en temps réel à toutes nos émissions. Le groupe Facebook qui s'appelle Je pense donc j'agis. Passez toutes et tous une bonne journée avec RCF et à demain.